comment dire, de peine, quoi, de peine de répression, qui a été divisé par 5 ou 6. Garder le cannabis hors de la portée des mineurs, autre objectif qui est détaillé dans la fin de l'article, qui apparemment a été atteint aussi, puisqu'on nous dit que la tranche d'âge des jeunes de 18 à 24 ans est celle où la consommation est la plus courante, mais que l'usage des 15 à 17 ans n'a pas augmenté depuis la légalisation. Bon, bah, rien de nouveau sous le soleil, effectivement, quoi. Les jeunes adultes, 18 à 24 ans, sont la plus grande partie de la population à faire usage de cannabis. Ça, c'est vrai dans toutes les sociétés occidentales depuis un bon paquet d'années, on le sait, mais on est rassuré puisque l'usage qui, celui-là, peut être vraiment problématique sur un plan sanitaire, psychologique et tout ça, celui des adolescents et non pas des jeunes adultes, celui des 15 à 17 ans, je répète, c'est écrit noir sur blanc dans l'article, l'usage chez les 15 à 17 ans n'a pas augmenté depuis la légalisation. Ça, c'est très très bien et effectivement, c'est encore une fois un des points, un des risques nommés, donnés par les opposants à ce genre de réforme. Les jeunes vont encore plus fumer qu'avant. Bah non, regardez, 5 ans après au Canada, les statistiques d'usage de la part des adolescents n'a pas augmenté, alors que l'accessibilité au produit, elle, a été quasiment décuplée. Et voilà, les trop jeunes fumeurs, les jeunes fumeurs mais adultes, eux, bon bah ils consomment, mais ils consomment de manière sécurisée car légale, et les jeunes fumeurs problématiques, c'est-à-dire les adolescents, ceux qui sont pas majeurs, et ceux aussi, surtout à qui le système nerveux central n'est pas encore à pleine maturité, eux ne sont pas plus fumeurs, n'ont pas plus accès au cannabis qu'avant. C'est donc que des bonnes nouvelles, c'est assez génial. L'article se termine en disant qu'au Québec, la proportion des personnes qui ont consommé du cannabis dans la dernière année a diminué, passant de 19% en 2022 à 17% en 2023. Et la situation propre au Québec est même intéressante. Le second article, très intéressant, alors celui-là, je vous le cite pas. Je vous invite juste à vous rendre sur Internet si vous le pouvez et à le lire. C'est sur le site de Radio-Canada, radio-canada.ca, que Davout l'a trouvé, intitulé « Légalisation du cannabis 2. La consommation augmente à Montréal, mais pas chez les jeunes ». Publié le 19 octobre 2023 chez Stéphane Bordelot, qui là aussi s'intéresse aux spécificités québécoises constatées 5 ans après cette légalisation du cannabis au Canada. Sous différents aspects qui nous intéressent, que j'aurais aimé vous citer en entier. Je vais donc juste garder celui-ci, qui nous dit qu'effectivement, au Québec, les jeunes de 15 à 24 ans ne consomment pas davantage de cannabis depuis sa légalisation. C'est ce que montre une étude de la santé publique de Montréal. Ils sont l'augmentation significative de la consommation, elle est nette. Elle est passée de 17% en 2008 à 23% en 2022 dans la métropole québécoise. Mais c'est Natalia Gutiérrez, elle est agente planification, programmation, recherche à la direction régionale de la santé publique du secteur, qui dit, entre guillemets, cette augmentation se retrouve uniquement chez les 35 ans et plus et non pas chez les jeunes. C'est donc les plus âgés, 35 ans et plus, qui peut-être rassurés par le fait de ne plus avoir accès, plus être obligés d'avoir accès au marché noir, ce qui pouvait les freiner, et donc d'avoir un accès sécurisé au cannabis, qui se sont un petit peu plus, et puis aussi le lever du tabou à la fois judiciaire et social sur le cannabis, qui se sont dit, bah tiens, on va enfin essayer le cannabis dont on entend parler depuis tant d'années, et dont les jeunes nous rebattent les oreilles, ou alors pour se soulager de certains maux dus au vieillissement, ou ce genre de choses, qui eux sont plus gourmands en cannabis depuis cette légalisation, alors que chez les jeunes, non, c'est pas vrai, en tout cas pas à Québec, et on en est sûr, chez les adolescents, c'est pas du tout le cas. Que des bonnes nouvelles. Amis ES, prohibitionnistes du cannabis qu'on combat depuis tant d'années à ces micros et au sein des cirques, lisez ces articles de Radio-Canada et de du Devoir sur ledevoir.com. Retrouvez-les sur le blog de l'émission lafumedanleposte.blogspot.com, ces articles directement liés dans l'article dédié à l'édition du jour de Il y a de la fumée dans le poste, que Davou et moi-même avions grand plaisir à vous proposer une fois de plus aujourd'hui en direct sur Radio Libertaire. La fumée dans le lanterneposte.blogspot.com. Voilà, je crois que j'ai tout dit là, vous, non? On est bon, là? On va pouvoir donc se dire au revoir. Je sais pas s'il va y avoir détruire l'ennui, mais j'entends... Si, Davou me fait un signe qui me fait grand plaisir de la tête pour dire oui. Je vous laisse donc dans les bras musclés de détruire l'ennui en vous laissant donc avec peut-être qu'un tout petit extrait de Upfield Struggle, signé Adhesive, ce qui devrait convenir à Romain puisque c'est du hardcore mélodique suédois de 2000, tiré de leur extrait We Got, de leur album We Got The Beat. Bis à tous, à dans deux semaines. Ciao!
I'm not gonna lie, 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 I'm not gonna l Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4, c'est l'émission Détruire l'ennui, de retour après un petit laïus, les deux semaines passées, j'étais à un concert au CICP, me voici donc de retour, et donc avant de commencer donc cette émission du 22 octobre, si je ne me trompe pas, petite dédicace à mon ancien acolyte Papy, qui nous a quitté donc il y a un an, quasiment jour pour jour, parce que c'était le 23 octobre 2022. Voilà, donc ça passe vite, donc c'était un an d'émission sans lui. Voilà, quand je vais faire de mon mieux pour dire le plus de blagues possible en son souvenir, des mauvaises si possible. Bon, ça, je me fais plutôt confiance à ce niveau-là. Aujourd'hui, une émission thématique. Donc il y a la dernière émission, j'avais fait une spéciale 10 bits, je vais peut-être rafraîchir rapidement la mémoire pour expliquer un peu le concept, réexpliquer le concept. Le 10 bits, il s'agit d'un style musical qui s'est développé, structuré, disons sédimenté, au début des années 90, tout début 90. Le but, l'objet de ce style musical, c'est l'imitation maximale de Discharge, groupe anglais du début des années 80 qui a eu une influence extraordinaire sur le punk et le hardcore. Et une décennie après, il y a toute une série de groupes qui ont commencé à imiter jusqu'au nom, hein, les noms en 10 notamment, la musique, l'esthétique, donc la terminologie, le lexique de Discharge. Donc ça a commencé grosso merdo avec deux groupes, Disaster, qui était un groupe du nord de l'Angleterre, et Dischange, pardon, les Suédois. Moi, l'émission d'aujourd'hui, ça va être ce qu'il y a avant ça, entre Discharge et le 10 bits. Donc ça, on va couvrir un petit peu les années 80. Et donc le but, ce sera de voir des groupes qui sont influencés par Discharge, mais qui ne sont pas complètement dans l'imitation de Discharge. Avec quelques, peut-être pas des exceptions, mais des choses un poil équivoques, ou ambiguës, ou un peu difficiles à classer par rapport au contexte, disons, historique du punk. Hein. Donc, voilà, ça, les bases sont posées. Discharge, donc groupe actif, les meilleurs disques sortent entre 1980 et 1983, on va être gentil. Et donc, dès 1982, il y a toute une série de des groupes qui vont devenir très influencés par Discharge, que c'est un groupe qui va être très populaire en Angleterre, hein, sorti sur Clay Records, ils vendent beaucoup de disques, ils tournent, il n'y a aucun équivalent dans l'histoire de la musique par rapport à ce qu'ils font, c'est même, pas même pour du punk, si on compare à la vague années 70, les Sex Pistols, les Clash, les Ramones, ça fait vraiment du rock à papa comparé à ce que propose Discharge en termes d'impact, d'agressivité, c'est quelque chose de très brut, de très primitif, en colère, c'est esthétique noire et blanche, des morceaux très très courts, des paroles vraiment scandées, paroles très courtes aussi. Donc ça change complètement le paradigme du punk. Hein. Clairement, il y a un avant et un après Discharge. Moi, je m'intéressais à l'après, et donc tous ces groupes qui vont juste suivre après, qui, étant adolescents, écoutent beaucoup Discharge, et vont se mettre à écrire des chansons influencées par Discharge. Pas des comme Discharge, qui sera le 10 bits des années après, mais influencées par. Voilà. Voilà les prémices, la base analytique. Donc, le premier groupe qu'on a écouté, c'est Varukas, donc peut-être le groupe le plus représentatif de ce mouvement d'influence de Discharge, hein, en anglais. Ils sont de Leamington Spa, donc en Angleterre, sur à peu près au milieu. Ils se forment dès 1980, sauf qu'au début, c'est vraiment un groupe punk bancal de collégiens, en gros, hyper morveux. Et peu à peu, donc, ils vont écrire des chansons assez dischargiennes. Alors, un peu plus fauchées, hein, je pense que c'est peut-être pas des très bons musiciens, en tout cas à la base. Mais voilà, toute leur carrière, encore maintenant d'ailleurs, hein, parce que c'est un groupe qui existe toujours. La base des Varukas, c'est vraiment le Discharge des années, début des années 80. Donc, c'est des groupes qui étaient contemporains l'un de l'autre, hein, même si Varukas, leur popularité décolle vraiment à partir de 83 en gros, et bon, 83, Discharge commence à sortir des disques un poil plus métal. Bon, c'est un petit peu le début de la fin, entre guillemets, même si j'aime bien ce qu'ils font en 83, mais c'est plus comme avant. Donc Varukas, ils arrivent un petit peu là. Le morceau qu'on a écouté, c'était Bombast, c'est un morceau qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à Discharge. On trouve le rythme de batterie typique, donc le 10 bits, les riffs, la scansion, le rythme des paroles, les thématiques, l'accentuation, c'est très très proche, et c'est un exemple vraiment parfait de hardcore des années 80, très Discharge, hein, parce que dans les années 80, il y a du hardcore un petit peu l'école américaine, hein, et l'école un peu plus raw-punk, donc Discharge, Chaos UK, les groupes suédois, voilà. Donc qui sont pas complètement dans l'esthétique ricaine et qui ont des thématiques un peu différentes. Donc Varouker sont vraiment dans la scène punk deuxième génération, hein, c'est pas la scène anarcho-punk. Ils sortent leur premier vinyle sur Riot City Records, c'était quand même le label qui illustrait parfaitement cette deuxième vague punk, donc punk à clous avec des crêtes, des trucs comme ça, moins politique. Derrière, on a eu Antisect, un autre groupe, l'autre groupe le plus influencé par Discharge dans le début des années 80 en Angleterre. C'est un groupe de Northampton à la base, de la région de Northampton. Il déménage à Londres un petit peu après. C'est le groupe qui va inventer le style crust quelques années après. Là, on a écouté un morceau qui s'appelle Brighter Than a Thousand Suns. Donc, le morceau des Varoukers, on revient un peu, Bomb Blast, ça parle donc de la guerre, explosion de bombes. Malheureusement, ça colle bien avec l'actualité. Bombardement, hein, Bomb Blast, c'est ça, c'est l'explosion. Hein. Brighter Than a Thousand Suns, ça veut dire plus brillant que 1000 soleils. Ça parle évidemment de la bombe atomique. Donc, c'est des thématiques très très dischargienne, hein. La guerre nucléaire, l'oppression de l'État, des paroles courtes, vraiment coup de poing. Antisect, à leur début, ils sont vraiment très influencés par Discharge. Ils tournent avec Discharge sur la première tournée Antisect, c'est avec eux. Les deux groupes s'entendent bien. Malheureusement, à cette époque, Antisect n'enregistre pas vraiment de démos écoutables ou de disques, évidemment, ceux qui représentent leur période la plus influencée par Discharge. Il y a un très bon live. Néanmoins, enfin très bon, écoutable en tout cas, c'est l'extrait qu'on a écouté, il est tiré de ce live, enregistré le 13 novembre 1982 à Nottingham, et donc ça a été réédité sous forme d'un LP en 92, qui s'appelle Peace is Better Than a Place in History, où sur une face on a donc ce live de 82, première période du groupe, hyper discharge, hein. Sur l'autre c'est la période un peu plus métal, vraiment crust, voilà, donc c'est un disque assez culte, hein, pour le coup. Donc la petite différence avec Discharge au niveau des riffs, la rythmique, on est vraiment proche, c'est que Antisect, ils ont le double chant déjà, il y a deux chanteurs, c'est les pionniers de ça, et donc ça c'est quelque chose qui va être réutilisé énormément dans l'anarcho-punk et le crust par la suite. Derrière, on a eu Potential Threat. Donc les quatre premiers morceaux sont des groupes britanniques, hein. Voilà, je pense que vous commencez à vous en douter. Discharge était de Stoke-on-Trent, donc c'était une ville minière du nord de l'Angleterre. C'était la ville où ils faisaient des poteries. Hein. Le surnom des gens de Stoke, c'est les Potters. D'ailleurs, voilà. Stoke City, le club de foot de Stoke, c'est leur surnom, les Potters. Donc c'est vraiment une ville ouvrière. Et donc ça comptait aussi beaucoup, hein, dans la mystique Dischargienne. C'est que on était très loin des étudiants qui faisait un peu le gros du public de la première vague punk des années 70, hein. C'était des milieux étudiants, des milieux un peu contestataires, un petit peu branchés en quelque sorte, hein. Et c'est vrai que c'était beaucoup moins ouvrier comme mouvement, l'exception évidemment des groupes comme Sham 69 ou Cockney Rejects, qui étaient plus un peu en mode hooligan prolo londonien. Discharge, c'est complètement différent, ça fait presque loubar de Stoke, avec des espèces de vestes à clous. C'était pas des gens souriants, voilà. Il y a quelque chose de vraiment très différent qui arrive, et donc toute cette esthétique, ça coule un petit peu, ça fluidifie tout le punk anglais derrière. Donc Potential Threat, groupe anarcho-punk, hein, comme Antisect, hein, c'est des groupes qui appartiennent à la scène anarcho-punk, donc l'autogestion, des paroles plus politiques, très branchées, droits des animaux dans le cas de Potential Threat, et c'est de Blackburn. Le morceau qu'on a écouté, c'était Animal Abuse, un morceau très court. Voilà, au niveau de la batterie, du riff, on est vraiment sur du punk à la Discharge, les débuts de Discharge notamment, chant très agressif. C'est une chanteuse, ce qui malheureusement n'était pas si commun dans cette première partie des années 80 pour ce qui est du hardcore un peu rapide à la Discharge, oui, sacrilège un petit peu après. Mais un petit peu après, dans la première partie des années 80, il n'y a pas tellement ça en Angleterre. Il y a beaucoup de filles qui sont évidemment dans des groupes, mais ce n'est pas des choses aussi énervées, entre guillemets. Voilà, Potential Threat, c'est le premier groupe de hardcore dischargien avec une chanteuse, donc c'est quand même bon de le souligner. Le morceau donc parle de la souffrance animale, c'est tiré d'un EP qui s'appelle What's a Great Britain, sorti en 82, donc on est quand même assez tôt, hein. Et on a fini par Anti-System, un groupe de Bradford, ça c'est aussi au nord de l'Angleterre, également un groupe de la scène anarcho-punk anglaise. Le morceau c'est Why Should It Happen, ça parle évidemment de la guerre. Il y a deux phases un peu dans Antisystem. Il y a cette première phase avec un chant très très morveux, un truc un petit peu plus dynamique. Sur la suite, il devient un peu plus lourd, hein, le chant des guitares plus grattées, un poil plus métal, hein, plus d'impact. Moi j'aime bien beaucoup les deux périodes, mais c'est vrai que le groupe change vraiment beaucoup. voilà, en peu de temps en fait. Hein. Le morceau est sorti en 84 hein, sur une compilation LP qui s'appelait Bollocks to the Gonads, qui était sorti sur Pax Records. On y trouve notamment Legion of Parasites, Crude SS, Riot Squad. Voilà, c'est une des premières compilations britanniques avec des groupes non britanniques. Évidemment, l'Angleterre, c'est très insulaire. Et pendant longtemps, ils ont été un petit peu fermés à ce qui se faisait ailleurs, au-delà de l'Angleterre en termes de punk. Ce qui fait qu'il y a eu un petit peu une stagnation et le hardcore américain est arrivé. Ça a quand même foutu un coup de pied à la fourmilière, le hardcore américain, suédois, voilà, tout ce qui se faisait un peu autour. Mais c'est vrai qu'encore maintenant, quand on croise des vieux quepons anglais, ils ont un petit peu du mal à penser qu'il y a eu beaucoup de choses, mais même bien meilleures parfois, en dehors de l'Angleterre. Voilà. Donc là, on a fait 4 groupes anglais, on va enchaîner avec la Suède. Bon, la Suède, c'est quand même le pays où Discharge a eu le plus d'influence sur les groupes punk de très 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 loin. C'est un cas un petit peu particulier dont on va parler maintenant. Et le premier groupe qu'on va écouter, c'est Disarm.
Shut up!
Toujours sur Radio Libertaire 84, c'est l'émission Détruire l'ennui, une émission aujourd'hui consacrée au proto-dibit, en quelque sorte, non pas en quelque sorte, tout à fait même, c'est-à-dire les groupes de hardcore punk qui précèdent le dibit, le genre qui s'est systématisé au sens strict du terme dans les années, à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui, hein. Et donc on va s'intéresser aux groupes influencés par Discharge, mais qu'on ne peut pas vraiment qualifier de dibit. Alors, on peut, je dis qu'on ne peut pas, mais en fait, on peut. Mais selon moi, c'est un petit peu anachronique, dans la mesure où Discharge, à l'époque, c'était une influence très forte, très prégnante, évidemment, sur ces groupes. Il y avait beaucoup de référentialité, beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'imitations, mais ce n'est pas aussi strict et orthodoxe que le dibit, où là, effectivement, c'est vraiment l'art de l'imitation qui est mis en avant. Donc c'est ces deux pratiques un peu différentes. Enfin moi en tout cas, la différence je la fais. Et c'était un, voilà, la démarche de l'émission se concentre là-dessus. On a une série de 4 morceaux de Suède. Alors comme mentionné juste avant, la Suède c'est un pays assez particulier à ce niveau-là, puisque l'influence de Discharge est énorme. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde du tout. La Suède ça reste quand même un petit pays entre guillemets. Mais le nombre de groupes de hardcore... très influencé par Discharge depuis les années 80 jusqu'à maintenant, il est absolument démentiel. C'est vraiment le pays où il y en a le plus, c'est de très très loin. C'est sans équivalent. Alors pourquoi ? Je ne sais pas, je connais assez mal le pays. Toujours est-il que dès 81, en fait, hein, il y a des groupes qui vont être très ouvertement influencés par Discharge musicalement, esthétiquement, au niveau des paroles, dans la démarche, dans tout. Donc, alors, pas que, hein, il y a aussi des influences de Chaos UK ou Disorder ou ce genre de groupes, d'autres groupes anglais, hardcore ricains sûrement, mais voilà, ça reste quand même Discharge, cette espèce de monument incroyable qui va influencer très durablement la scène. Le premier groupe qu'on a écouté, c'était Disarm, un groupe de Göteborg, groupe que j'aime beaucoup, donc un 10 bits assez pur au niveau de la batterie. Le son de guitare relativement clair également, avec un peu de distorsion, mais on n'est pas sur le mur de son. Ce que j'aime vraiment, c'est le chant, voilà, qui est assez, assez mélodique, qui est rauque, hein. Mais voilà, c'est pas complètement scandé, gueulé. Donc ça se démarque un petit peu quand même du modèle Dischargien, qui est vraiment beaucoup plus brutal, primitif. Primal. Là, ça chante un peu. Alors, ça reste agressif, hein. On est quand même sur quelque chose d'un peu gueulé, mais il y a une certaine mélodie. Et à ce niveau-là, Disarm, c'est, voilà, c'était absolument parfait. Ils savaient très très bien le faire. Ils ont malheureusement enregistré que deux EP. Celui qu'on a écouté, donc le morceau, c'est Regelingstodemluad. J'ai du mal à me relire. C'est pas bien, c'est le EP de 84. Le premier, Dumbed, est aussi, je préfère celui-ci, mais Dumb est vraiment très cool aussi. Il y a des démos qui existent, mais voilà, malheureusement, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas existé très longtemps, ou ils n'ont pas été très très prolifiques. Le groupe de la scène de Göteborg qui était quand même très, elle, qui était très prolifique, très très vivante. Hein. Le groupe suivant, donc Disarm, c'est pas que c'est confidentiel, mais voilà, c'est quand même pour les un peu les aficionados, hein, c'est les gens qui connaissent déjà. Le groupe suivant, par contre, c'est les poids lourds du hardcore suédois, peut-être le groupe le plus célèbre, c'est Anticimex. Alors, Anticimex, ça veut dire la vermine. C'est les dératiseurs, hein. Anticimex, ça veut dire c'est anti-vermine. Donc, ils ont pris ce nom-là étant adolescents, ce qui est un nom plutôt cool. Et c'est devenu peu à peu l'espèce de groupe, le parangon du hardcore suédois. Ils ont eu beaucoup de périodes différentes, hein, parce que c'est un groupe qui a existé jusqu'en les années 90. Là, c'est vraiment la toute première période qu'on a écoutée. Le morceau, c'était Drömmusik, tiré du EP Anarchist Attack, sorti en 82. Enregistré en fin 81, donc on est quand même assez tôt. Hein. Alors, le son est très très cru. Hein. Là, clairement, on sent que c'est du studio, c'est du direct. On se branche et on enregistre avec le premier chanteur. Et donc, dès le début du morceau, avec ce rythme de batterie 10 bits tout à fait reconnaissable, on sent quand même que l'influence, elle est là. C'est un petit peu plus punk, hein, un peu plus morveux, un peu plus punk rock que Discharge. Hein. Sur le deuxième EP d'Anticimex, là, c'est encore plus brutal que Discharge. Il change vraiment de direction. Enfin, il change de direction et du truc un peu punk rock qu'on a sur le premier EP. On passe complètement sur une espèce d'agression et de mur de son. Là, on est sur la première période. Hein. C'est la période un petit peu de construction. Hein. Dans le Bildungsroman d'Anticimex, on est au début du livre. Et c'est voilà, une période intéressante. Et dès le début, on sent quand même bien l'influence dischargienne qui va marquer durablement le groupe. Et c'est un groupe qui aura une énorme influence à la maison. Et donc, par extension, hein, par prolifération de toute la scène. Derrière, on a eu Discard. J'avais mentionné sur l'émission 100% 10 bits, années 90. Discard, on pourrait qualifier Discard du premier vrai groupe de 10 bits. Puisque alors c'était plus un projet hein, qu'un groupe, hein, puisque c'est des membres de Mob 47 et de Agony, avec le guitariste et le batteur de Mob 47. C'était un peu un projet rigolo, dont l'objet était voilà, l'imitation la plus proche possible de Discharge. Sauf que Discharge, ça ne sonne pas tellement comme Discharge, ça sonne beaucoup. Et la batterie est quand même plus rapide. C'est Discharge en 45, en quelque sorte. Hein. Néanmoins, il y a le préfixe 110. Il y a la police d'écriture est la même, l'esthétique, les visuels sont quasiment les mêmes, les textes sont les mêmes, la scansion, voilà, c'est quand même ce qu'on a presque de plus proche dans les années 80 de la formule, en Suède en tout cas c'est le cas. La seule raison pour laquelle je ne l'inclus pas, officiellement dans la phase 10 bits de l'histoire de la musique, c'est parce qu'il y a apparemment de vagues. C'est-à-dire que ça n'entraîne pas tout de suite, en tout cas, la multiplication de groupes qui vont faire exactement la même chose. Hein, le préfixe 110, l'esthétique, etc. Ça ne fait pas mode, en quelque sorte. Il n'y a pas encore cet effet boule de neige. Ça sera un peu après. Donc, Discard, assez unique pour l'époque. Mais clairement, c'est un présage de ce qui va arriver derrière massivement. Puisque, voilà, dans les années 90, l'imitation de Discharge prend une des proportions complètement démentes. Là, ça préfigure. On est un petit peu avant, et surtout c'est pas un vrai groupe, c'est un projet studio, Discard, donc bon, ça reste un groupe, mais c'est pas quelque chose qui tourne, c'est pas quelque chose qui joue vraiment. Il y a eu quelques concerts, mais vraiment très ponctuels. Le groupe se reforme dans les années 90, avec un line-up complètement différent. En 93, ils sortent un super album, et là qui est vraiment dans la période 10 bits, années 90, c'est encore plus proche de Discharge. Et là, par contre, on est vraiment sur du 10 bits pur et dur. Là, c'est les prémices du style. Voilà. C'est vraiment de la nuance, hein. Ça reste quand même beaucoup de bruit pour la plupart des gens, mais voilà, pour moi, ça compte. Et on a fini par Afskoum, un petit peu à l'instar de Disarm. Ce que j'aime beaucoup chez Afskoum, c'est le chant, qui reste assez mélodique, c'est gueulé, mais on sent quand même que le chanteur, il suit les notes, c'est pas juste hurler dans les oreilles, il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'aime beaucoup sa façon de poser le chant. Afskoum, c'est un groupe qui existe encore. C'est un des rares groupes de hardcore suédois qui ont fait 4 décennies maintenant. Alors, il y a eu des pauses, hein. Évidemment, dans les années 90, ils ont repris en 96, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y a eu quand même une dizaine d'années où ils ont un peu rien foutu. Mais voilà, maintenant, ils sont encore en activité. Ils avaient arrêté pendant quand même une dizaine d'années, ils ont repris. Donc, voilà. Ponctuellement, ils se reforment, ils refont des disques. Là, ils viennent de ressortir un album qui est très très bien. Le morceau qu'on a écouté, il s'appelle Fear. Il était en 85. Et ça devait sortir sur Mortiret Records, donc le label de Conflict. On l'appelle anarcho-punk anglais, Conflict, hein, non. Un des groupes les plus célèbres du style, encore en activité pour le coup. Et il y a eu beaucoup de projets de disques sur Mortar Hate qui ne sont jamais sortis. Le deuxième album d'Antisect est sûrement l'exemple le plus connu. Mais il y avait aussi donc, cet album de Afskoum qui commençait déjà à me changer un petit peu de style. C'était la deuxième partie des années 80, donc... Afskoum, c'est vraiment un groupe typique du hardcore suédois, très 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 dischargien, un peu plus mélodique peut-être, un poil plus rapide parfois, mais on est voilà, vraiment sur cette espèce de formule qui marche hyper bien, hein, qui symbolise le style. Sur la 85, ils essayent des choses un peu différentes, un peu lentes, même limite du post-punk parfois. Alors, entrecoupé de chansons, vraiment comme on a écouté, pure discharge. Mais ouais, ils essayent de faire des choses un peu différentes. C'est vraiment dommage que Mortar Hate ait jamais sorti le disque. Apparemment, c'est le label qui a vraiment merdé. Voilà, j'ai lu des interviews dessus et on sent qu'il y a encore un petit peu d'amertume. Bon, ce qui est rigolo parce que 85, c'est quasiment il y a 40 ans. Hein. Voilà, donc les groupes suédois, honnêtement, j'aurais pu en passer 25, hein, qui, même que dans les années 80, qui ressemblaient à Discharge. J'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, on aurait pu faire une émission avec que ça. Bon, ça aurait été un petit peu dommage, donc on va quand même changer de pays. On va changer de pays plusieurs fois, d'ailleurs, sur la prochaine série de 4. Donc, après l'Angleterre, après la Suède, on va commencer par un petit détour par l'Italie. C'est parti!
Vita! Tanto che scoppia la guerra, loro non pensano a noi! A noi! A noi! A noi! A noi! We'll
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 84, c'est l'émission Détruire l'ennui. Une émission aujourd'hui consacrée au hardcore, influencé par Discharge dans les années 80. Je ne vais pas ressasser les bases, les structures, la ligne rouge, le fil rouge plutôt, de l'émission. Donc on est reparti sur du hardcore punk cru. Et donc influencé par ce rythme de batterie si reconnaissable entre mille, hein, qui a été inventé, utilisé, réutilisé ad nauseam. Donc là, on est sur la première période de réutilisation. On est encore sur la phase d'influence et pas d'imitation complète. Donc les groupes qui écoutent beaucoup Discharge et qui essaient de l'intégrer à leur propre son. Dans le cas des Suédois, ça prend un gros pourcentage, un peu moins dans les groupes qu'on a écoutés. On a commencé donc par un groupe italien qui s'appelle EU's Arse, le cul de l'Union Européenne, littéralement. Morto, c'était Enoi, le groupe était d'Udine, donc dans le nord de l'Italie. Morceau qu'on a écouté, donc tiré d'un split EP avec Impact, un autre groupe de hardcore italien. Un des groupes de hardcore en Italie dans les années 80, il y en avait énormément. L'Italie, c'est une des places fortes du style à cette période-là, pensant réel équivalent dans cette partie de l'Europe, clairement. Il y en a énormément, donc assez furieux, très agressif, souvent très politique. Certains influencés par Discharge, mais c'est pas forcément le premier groupe qui va être le plus influent. Il y a quelques groupes italiens qui utilisent, il n'y a pas tant que ça non plus. Yiyuzar, c'est peut-être le groupe le plus influencé par Discharge de l'époque. Donc, leur face s'appelle Questa è la loro speculazione di morte. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça parle de la mort et de la spéculation sur la mort, donc j'imagine la guerre. Ce qui, outre alors, la musique est extraordinaire hein, sur ce morceau-là, c'est simple, le débit est très très pur à la batterie, ça va vite, c'est super bien. Le chant par contre, ça rend le groupe inimitable, on dirait vraiment un mec en camisole de force qui hurle. Alors là, il n'y a pas de mélodie du tout, il n'est même pas tout à fait dans le rythme. C'est un peu indéfinissable, et pour l'époque, c'est un chanteur qui n'a pas vraiment d'équivalent. Je les ai vus en live il y a presque 10 ans, sous le groupe joue encore, de temps en temps, et c'était hyper bien. Il a le même genre de chant, enfin, le même genre de musique. C'est, il a vraiment son propre style, et ça colle bien au truc raw punk, un peu 10 bits de années 80. Donc voilà, super groupe hein, que je recommande beaucoup. Derrière, on a quelque chose d'un poil plus obscur, c'est Underage, un groupe de Naples, qui ont sorti un seul EP en 83. Le EU's Arse qui est sorti aussi en 83, par ailleurs. C'est sorti sur Attack Punk Records, le EP de Underage. Attack Punk, c'était le label de punk politique de Bologne dans les années 80. C'est le label qui sort les premiers Chichich EP, notamment, le groupe qui va devenir assez gros. Alors là, on est sur une base dischargée, dans le sens le plus chaotique du terme. C'est assez brumeux, il y a beaucoup de distorsions, c'est pas très très calé, on sent le groupe qui en veut, qui est hyper vénère, mais qui joue pas très très bien en fait. Moi j'aime beaucoup, hein. Ça représente très bien toute cette vague de jeunes groupes années 80 qui veulent faire du hardcore punk, à la Discharge, Barrockers, tous ces groupes-là. Mais bon, voilà, c'est un petit peu... on fait comme on peut. Le morceau donc s'appelait Underage, ça parle de guerre nucléaire, parce que pourquoi pas. Et c'est un groupe qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, tous les enregistrements ont été mis sur un vinyle. Alors parfois ça gratte un petit peu si on n'est pas vraiment accroché sur ce genre de musique, mais moi j'aime beaucoup. Derrière, on a eu... Qu'avons-nous eu ? On a eu... Ah, MR15, groupe de Malaga. Alors le 10 bits, ou le hardcore influencé par Discharge, puisqu'on en est encore à cette étape, est très populaire en Espagne aujourd'hui. Enfin, et le premier groupe vraiment pionnier du style dans les années 80, non, c'est donc MR15, MG15, hein, comme on dit en France, groupe de Malaga, qui n'est pas forcément une ville très réputée pour le punk. Hein, on aurait pu penser qu'ils étaient de Barcelone ou de Madrid, pas du tout, ils sont de Malaga. La ville de Pablo Picasso. Voilà, je me la pète un peu. Le morceau, c'était Genocidio. Donc, on est sur quelque chose de très, très, très primitif, hein, voire basique. Hein. MR15, c'est enregistré sur un 4 pistes. La batterie très, très en avant. Donc, un 10 bits très pur, très basique. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de quasiment école maternelle. Hein. On n'entend pas tellement la guitare. C'est très dépouillé. c'est le style, hein, le style du groupe, là encore, hein, c'est quelque chose qui va avoir une grosse influence sur pas mal de groupes par la suite, c'est cette façon de jouer du punk dischargien de façon très, très épurée, agressif, mais vraiment très lofi, comme on dirait aujourd'hui. C'est un groupe donc, qui a sorti qu'un seul EP à l'époque, hein, qui s'appelait Derecho a la Vida, sorti en 85. Ça a été réédité par la suite, il y a aussi toute une démo qui, a été, qui est sortie en disque par là. Mais voilà, groupe culte, hein, Emre Kinsey, voilà, c'est vraiment un vrai groupe culte pour le coup. Disons que le côté un petit peu austère de leur débit, entre guillemets, mais hyper... hyper viscéral en même temps, fait que ça rentre un petit peu dans l'espèce d'imaginaire du groupe, quoi. C'est assez à part, Emre Kinsey. On a fini sur un groupe français et même d'Île-de-France, un groupe méconnu. Mais alors, quand je dis méconnu, là, on n'est même pas sur du un peu connu, non. Là, c'est toute personne ne connaît. J'ai eu la chance qu'on me fasse parvenir une cassette où il y avait des morceaux de ce groupe que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir jeté une oreille dessus donc par personne interposée, hein, parce qu'à l'époque c'était pas sur internet, c'est même pas téléchargeable quelque part, même en fouillant, en retournant complètement la toile. Surcharge, c'était un groupe, je me demande s'ils étaient pas de mots, il n'y a pas beaucoup d'informations sur eux. C'est un groupe qui a pas existé très longtemps, c'est à la fin des années 80. Le morceau qu'on a écouté, il est enregistré en 89 normalement, il s'appelle Naples Museums. C'était un trio. Alors, la scène française dans les années 80, il y a très très peu de groupes de hardcore. Hein. Alors, en Italie, il y en a plein. En Espagne, il y en a quand même pas mal aussi. En Belgique, il y en a. En Allemagne, il y a plein de trucs qui vont vite aussi. En France, non. En France, on aime le rock alternatif, parfois un peu pouette-pouette. Donc, le hardcore n'est pas du tout populaire, à part Heimatlos à Paris, qui est un peu le groupe de hardcore phénomène. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Bon, il y en a, hein, il y a des groupes comme Rapt, comme Scraps, choses comme ça, mais c'est pas du tout l'explosion qu'il y a chez les voisins. Et Surcharge, donc, c'est un groupe complètement énigmatique, qui n'a pas existé longtemps, et donc c'était le seul groupe français à être vraiment influencé par Discharge, tellement influencé d'ailleurs, qu'ils vont quand même l'appeler Surcharge, leur nom. Donc le batteur et le chanteur étaient anglais, ce qui explique un petit peu la façon de poser le chant, l'accentuation, la scansion, ça ressemble beaucoup aux groupes anglais type Barrockers, Anti-System, ou Iconoclast, bon, qui était américain mais qui chante en anglais. Donc les yeux fermés, on penserait pas du tout que c'est un groupe de la région parisienne, et pourtant si. Donc ça c'est trouvable nulle part, hein. J'espère qu'un jour une réédition apparaîtra, peut-être que je vais devoir m'y coller, c'était un petit peu le projet, c'est mis entre parenthèses, mais voilà. J'espère qu'un jour ça sera fait. Donc voilà, c'était Surcharge, le morceau Naples Museums. Sur la démo, on trouve une reprise de Discharge. Voilà, ça ne trompe pas. On va passer sur une série avec 4 groupes américains. On n'a pas encore parlé des groupes ricains. C'est un cas un petit peu à part. On va commencer par sûrement l'un des groupes les plus influencés par Discharge de l'époque. C'est Iconoclast. We'll be right back. Vous êtes toujours sur Radio Liberté à 89.4, c'est l'émission Détruire l'ennui, une émission aujourd'hui consacrée au punk hardcore influencé par Discharge des années 80. On a eu donc l'Angleterre, ah, c'est logique puisque Discharge c'est un groupe anglais, avec Nord-Angleterre notamment. On a eu la Suède derrière, le pays où il y avait le plus de groupes fans de Discharge. On est passé par l'Italie, l'Espagne, même par la France, c'est dire. Maintenant on attaque les ricains. Alors les ricains, le nombre de groupes de hardcore ricains dans les années 80 est complètement délirant. Je ne suis pas du tout un expert du style, ce qui est peut-être un petit peu paradoxal. Parce que quand on dit hardcore, pour les gens même qui écoutent un peu de punk ou même de rock, tout de suite ils pensent aux Américains. Le hardcore, c'est au niveau de la terminologie, c'est associé aux États-Unis, parce que les groupes les plus connus, les plus populaires sont américains, de New York, mais aussi comme Black Flag ou Minor Threat, qui sont ou que hyper cultes, qui sont censés un peu avoir construit le style, sont évidemment ricains. Alors, pour moi, le hardcore américain, c'est juste un style de hardcore, comme peut l'être le hardcore suédois, le hardcore italien, le hardcore brésilien, etc. Hein, quand j'entends hardcore, moi je pense pas du tout en premier au groupe américain, contrairement à beaucoup. Donc, pour beaucoup de gens, le hardcore influencé par Discharge n'est pas vraiment du hardcore, puisque la majorité des groupes de hardcore américains ne sont pas influencés par Discharge. Donc c'est un peu un raisonnement circulaire, puisque le hardcore est américain et qu'il n'y a pas beaucoup d'américains influencés par Discharge, par conséquent, les groupes influencés par Discharge ne sont pas du hardcore. Voilà. Donc ça c'est un peu bas du front, mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Voilà. Après c'est des gens un peu teubés en général, mais c'est un raisonnement qui est assez commun. Donc il y a eu des groupes quand même très influencés par Discharge et toute la vague anarcho-punk anglaise, notamment en Californie du Sud, hein, il y avait toute la scène dite peace punk. Alors pourquoi peace punk plutôt qu'anarcho-punk? C'est parce que c'était des groupes qui avaient des paroles anti-guerre, paroles pacifistes, à défaut de pacifiques, c'est un petit peu différent. Et les groupes hardcore ricains un peu basiques ne comprenaient pas. Hein, le côté anti-guerre et tout, ils ne comprenaient pas. Donc ils les ont catalogués comme des groupes peace punk. Bon, alors qu'en fait, c'est des groupes anarcho-punk. Donc on les appellerait comme ça, mais le nom a un petit peu collé. C'est vrai qu'aux États-Unis, le style est souvent appelé peace punk plutôt que anarcho-punk, et qui fait plutôt référence au groupe anglais, dans les années 80 en tout cas. Le premier groupe, Iconoclast, il est issu de cette scène, donc c'est un groupe très 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 influencé par Discharge, Antisystem, Varrockers, tous ces groupes-là. Donc Discharge et les groupes influencés par Discharge, ils font partie de cette vague-là. Le morceau qu'on a écouté, c'était Battlefields, c'est tiré d'un EP de 85. Leur démo de 83 est excellente, un peu plus crue, un peu plus raw, hein, comme ils disent. Voilà, mais le EP, il est magique, hein. Il y a des chansons pop dessus, un peu bizarre. Et puis, ils partent sur un espèce de hardcore punk dischargien accéléré avec un chant adolescent, un petit peu aigu, qui est hyper bien. C'est vraiment un super super groupe, un groupe que j'affectionne énormément dans l'esthétique, les paroles et tout, c'est vraiment super chouette. Groupe qui a été réédité récemment, hein, donc Iconoclast, ça peut enfin s'acheter en vinyle pour un prix normal, voilà, c'est une bonne affaire. Derrière on a quelque chose d'un peu plus confidentiel, qui faisait partie de la même scène, hein, parce qu'il était de San Diego, c'est de Diatribe, donc là on est sur quelque chose d'un petit peu plus obscur. On pourrait avancer que Diatribe, c'est le groupe le plus influencé par Discharge des années 80 aux États-Unis. C'est pas un groupe qui a énormément tourné ou énormément joué. Alors, ils étaient vraiment dans la scène peace punk. Hein. Si on regarde les vieux flyers, les vieux posters, ils jouaient très très souvent. Mais voilà, ils sont, à l'instar de beaucoup de ces groupes, d'ailleurs, ils restent un petit peu confidentiels. Ils ont sorti un EP en 85 qui s'appelait Aftermath, qui est extraordinaire. Eux, ils partent déjà sur du hardcore dischargien avec de la distorsion. Ce qui va devenir, à partir des années 90, notamment sous l'impulsion de Disclose, hein, le groupe japonais, où lui, il va baser son riff de guitare sur la distorsion. Voilà, sur Diatribe, on commence à sentir un petit peu qu'il y a des groupes qui pensent à ça. Hein. Donc on n'est pas quand même sur du complet Disclose, mais on n'est pas loin. C'est un morceau parfait, hein, 10 bits extrêmement purs, très bien enregistré à la batterie, très puissant. Hein. La scansion, tout, c'est... Bon, le EP, il est parfait, hein, de Diatribe, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Iconoclast, Diatribe, c'est des super, super, super groupes. Au niveau du phrasé, on sent quand même que c'est des groupes américains. Ils n'ont pas le phrasé allant à l'anglaise ou à la suédoise ou à l'italienne, évidemment. Eux, ils chantent tout le temps sans s'arrêter. On entend un peu l'accent et on entend aussi que c'était des groupes qui étaient qui malgré tout baignaient hein, dans cette espèce de hardcore ricain, typiquement ricain. Donc on les détecte, hein, parce que pas grave, hein, mais du coup ça fait un style un poil différent. J'aurais pu passer Crucifix, hein, qui est le groupe le plus connu de cette scène post-punk. Grosse influence de Discharge, grosse influence des groupes anarcho-punk à la crasse, hein, puisque le LP de Crucifix il sort sur Corpus Christi, hein, qui était quand même géré par Penny Rimbaud, les gens de crasse, enfin liés à crasse. Mais voilà, influence de Discharge, mais c'est quand même pas non plus du 100%, et c'est un groupe assez connu, donc je voulais pas. Ça servait pas à grand chose de les passer, enfin je dis ça, j'ai passé vers Rockers. Mais voilà, c'était pas complètement dans le thème. On a enchaîné avec Against. Alors Against est aussi un groupe californien, décidément, hein, avec des membres de Suicidal Tendencies. Alors c'était un peu en parallèle ou même avant Suicidal Tendencies. Je suis pas très au fait de leur discographie. Mais voilà, donc Suicidal Tendencies, c'est un des groupes crossover les plus connus, un peu gangsta, blanc, trash metal punk, avec des bandanas et voilà, un truc. Pour moi qui me parle absolument pas. Against, c'est du groupe hardcore Dischargien, années 80 à fond. Hein. Enregistré en mai 84, le morceau c'est Children. Très basique, très primitif. Hein, sur la batterie, on n'est pas loin de MR15, hein, le groupe espagnol qu'on a écouté tout à l'heure. Le phrasé, la scansion, on est sur du pur Discharge hardcore. Vraiment, c'est un super groupe. Vraiment pas connu, ils n'ont pas sorti de disque quand ils étaient actifs. Il y a juste des démos. Ça a été réédité en LP très récemment. Moi, j'ai la discographie CD qui est très bien. Il y a plein de flyers, machin. C'est pas un groupe qui était connecté avec la scène dite peace punk, hein, dont Diatribe et Iconoclast faisaient complètement partie, qui sont pas très loin géographiquement. Je pense que c'était juste une autre clique. Pour le coup, plus hardcore ricain. Gaines, c'est un peu une exception, hein, parce que même dans la police d'écriture, Gaines écrit avec quasiment le même lettrage que Discharge. Donc on est vraiment dans cette intention-là. Ils étaient de Venice Beach. Against, hein, comme évidemment Suicidal Tendencies par la suite. Un groupe assez méconnu. Hein. Là, pour le coup, on est sur un peu de l'obscur. Et le dernier morceau, on est encore sur du plus obscur, hein, puisqu'on a écouté Sacrilege. Alors, des groupes qui s'appellent Sacrilege, il y en a pas mal. Hein. Il y a évidemment le groupe anglais de la région de Nottingham, avec des membres de Varrockers d'ailleurs, et une chanteuse avec une voix reconnaissable entre mille, groupe pionnier du metal punk à l'anglaise, et qui commence sa carrière en faisant du punk hardcore à la Discharge. On devrait presque plus mettre un morceau de Sacrilege. Mais voilà, ils sont déjà un poil metal quand même, quasiment dès le début. Donc c'est pas eux, il y a un autre groupe de trash metal que je connais pas très très bien, qui s'appelle Sacrilege B, on dit BC pour les différencier. Et donc il y a ce Sacrilege là, qui est de New York. Donc là on est sur le très 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 obscur. Alors, Sacrilege de New York, pour l'anecdote, c'est plus qu'une anecdote, c'est le guitariste, c'est celui de Nausea. Alors Nausea, c'est le groupe de crust de New York hyper connu, hein, pour le coup c'est un des groupes de crust les plus célèbres, pas seulement des États-Unis mais dans l'histoire, hein, c'est vraiment mon groupe culte, super groupe, et on trouve donc le même guitariste, et sur la première démo de Sacrilege, et même des chansons qui finiront dans le set de Nausea, hein, notamment le morceau qu'on a écouté, alors qu'il va avoir des paroles différentes quand ce sera Nausea qui va le refaire, mais qui est exactement le même. Donc là c'est tiré d'une démo de 85, donc on est vraiment avant, hein, la période de Nausea, hein, c'est qui se formera après. Et surtout, la version définitive, elle sera sur le LP Extinction, qui sort en 90. Hein. Donc là, on est quasiment 5 ans avant. C'est très très cru, hein, le son de Sacrilege. On sent que c'est un jeune groupe et qu'ils enregistrent un peu avec les moyens du bord, hein, des allumettes, quoi. Le morceau à cette époque s'appelait Daily Death. Et ça a été réédité en LP il y a quelques années sur un label qui s'appelle Radio Rahim. Qui voilà, réédite, je pense, des groupes de New York un petit peu oubliés comme ça. Et pour l'anecdote, il y a un mec de Murphy's Law dans Sacrilege, qui est un groupe de hardcore new-yorkais, un peu tough guy, un peu viril, dégueulasse. Et voilà, lui, il a fait un passage là-dedans. Ce qui est assez cocasse, hein, quand on sait que le guitariste Vic va jouer dans un des groupes les plus hippie crust de l'histoire. Voilà. Comme quoi, hein, y a une justice. On va enchaîner avec une autre série. Ah, on va partir dans des pays où on n'est pas encore tout à fait allé. Donc, on va faire le Japon, les Pays-Bas, la Belgique et la Pologne. C'est parti.
We'll be right back.
Vous êtes toujours sur Liberté à 80.4, c'est l'émission Détruire l'ennui. Donc aujourd'hui, une spéciale hardcore punk années 80, des groupes influencés par Discharge un petit peu dans le monde entier. Donc on est passé par pas mal d'endroits, les quatre derniers morceaux, donc le Japon, on n'était pas encore passé par ce pays emblématique du punk un peu foufou. Le groupe qu'on a écouté, c'est Crow, pour le coup un vrai groupe culte, comme le savent le faire si bien les Japonais. C'est sûrement le premier groupe japonais à baser sa musique, en tout cas dans les années 80, puisque c'est un groupe qui existe encore, et vient d'ailleurs de sortir un disque, baser leur musique à l'origine sur une grosse influence de Discharge. Premier EP, donc sorti en 85, Who Killed Dove, ça pointe un petit peu, hein, on l'entend, mais voilà, ça n'a pas complètement fleuri. Sur l'album qui va sortir deux ans après en 87, qui s'appelle Last Chaos, là par contre on est à fond. Le morceau qu'on a écouté, c'est Air Attack, et voilà, là on est vraiment sur du raw punk dischargien, très agressif avec un son cru. C'est vraiment un album, un vrai classique pour le coup, et le premier exemple d'un album, un disque de punk japonais qui se base vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Discharge. D'ailleurs, le groupe les remercie en tant qu'influence sur sur le LP, hein, dans l'insert. Donc, voilà, groupe qui va évoluer, hein, dans les années 90, ils vont faire des choses un poil plus métal. Donc, voilà, intéressant. Hein. Derrière, on a eu un groupe beaucoup plus obscur, un groupe d'Amsterdam qui s'appelait Jesus and the Gospel Fuckers. Alors, le nom pourrait faire penser à un groupe de rock'n'roll dégueulasse. Ce n'est pas le cas, c'est du hardcore, démo de 82, le morceau s'appelle Factory. C'est pas un groupe qui faisait que du punk à la Discharge, mais ce morceau-là, c'est vraiment du hardcore 80s dischargien par excellence, un D-beat très très pur, comme on a écouté quelques-uns. Au niveau de la scansion, le placement de la voix, absolument tout y est. Donc un petit peu un ovni, hein, cette chanson qui est quand même hyper bien. C'est un groupe que Kawakami Disclose appréciait beaucoup apparemment. Diatribe aussi, hein, qu'on a écouté plus tôt. Dans Jesus and the Gospel Fuckers, il y a des gens de Agent Orange et Funeral Oration. Des groupes nettement plus célèbres, encore un peu confidentiels. Hein. Agent Orange, c'est pas, il y a un groupe ricain du même nom. Hein. Voilà, à ne pas confondre, là on n'est pas du tout sur la même notoriété. Derrière, on a eu Subversion, là aussi on est sur du très obscur, un groupe belge qui a sorti, je crois qu'il y a un ou deux enregistrements dont les chansons sont seulement apparues sur des compilations à l'époque. Le morceau qu'on a écouté, c'est Death Agony, sorti sur une compilation qui s'appelait Bollocks to the Gunheads, dont on a écouté un extrait tout à l'heure, c'était Antisystème de Bradford. Et bien voilà, Subversion, ils apparaissent sur la même compilation, comme je l'ai mentionné plus tôt, un des rares exemples de compilation britannique avec des groupes non britanniques dans les années 80. Là, on est vraiment sur du très très dischargien, un peu fauché. On est sur quelque chose d'assez assez bancal, un peu adolescent, mais qui reprend tous les codes assez avec pas mal d'orthodoxie. Hein. Donc c'est un groupe intéressant, ne serait-ce que par son c'est un peu unique, hein, pour l'époque, de vouloir coller aussi proche à la version originale. Hein. Donc c'est du proto D-beat. Là, on est sur proto D-beat, hein, comme Emery Kinsey, tous ces groupes-là, Discard. Bon, vraiment dans la formation de la chose. Le morceau, donc, c'est Death Agony. Il y a 5 ou 6 morceaux de Subversion qui vont être réédités en 2008 sur un EP que malheureusement je n'ai pas, mais voilà, que je prévois un jour d'acheter. Quoi. On a fini cette série par un morceau d'un groupe polonais, il s'agit de Rejestracja. Le morceau, c'était Armia. Alors, le son est hyper cru parce que c'est un morceau live. Assez peu de groupes à l'époque avaient les moyens ou même la possibilité d'enregistrer dans un vrai studio qui était quand même bien souvent des studios d'État. Donc eux, c'était voilà, que du live ou de la cassette démo enregistrée dans la cave de quelqu'un. Alors c'est pas du tout un groupe que influencé par Discharge, même, c'est plutôt une exception cette chanson. Hein. Le punk polonais, alors évidemment tout le monde écoutait Discharge, donc voilà, les gens connaissent, hein, tout le monde connaissait dans les années 80. Mais il n'y a pas vraiment de groupe hyper influencé par eux à cette époque-là. C'est vraiment par touche, dans quelques chansons, dans des sets, on va trouver voilà, une influence un peu comme ça, un peu 10 un peu rapide. Là, c'est un exemple assez, assez tôt, hein, puisque c'est de 82, ce morceau. Donc voilà, le son, il est ce qu'il est, mais c'est un groupe qui a beaucoup joué à Yalochin, qui était le gros festival punk là-bas, et un des plus gros d'Europe à l'époque, sans problème. On va finir par un groupe brésilien, avant de laisser la place à Rudy's Back in Town. Bon, j'aurais pu encore en passer une heure, hein, des groupes influencés par Discharge. Je vais pas le faire, et j'avais prévu un groupe allemand, un autre groupe espagnol, peu importe. Mais voilà, petite parenthèse sur la scène punk brésilienne, hardcore punk brésilienne, qui avait énormément de choses à l'époque. Donc c'est tout à fait logique que Discharge aille faire un petit tour en termes d'influence dans le songwriting des groupes de Sao Paulo, notamment, hein, puisque le groupe qu'on va écouter, c'est Armageddon, donc un des pionniers du metal punk un peu trash de l'époque. Mais leur tout premier album est quand même pas avare en référence Discharge. Donc l'album, il s'appelle Silencio Funebre, et le morceau qu'on va écouter, c'est Torturam os Pobres. Ça veut dire on torture les pauvres, ou ils torturent les pauvres, je suis pas tout à fait sûr. Voilà, en tout cas, on va enchaîner avec des choses un peu plus mélodiques, je pense, par la suite. C'est tout pour le hardcore de Discharge des années 80. Je vous dis vraisemblablement à dans 2 semaines, et je vous laisse entre de bonnes mains. Bonne soirée.
rockets to the sky. On the fifth met the beasts and submarines. On the sixth man prepares his final dream. In our image, let's make robots for our slaves. Imagine all the time that we can save. Computers, machines, the silicon dream. 70 retired from the scene. And he said, behold what I have done. I made a better world for everyone. Nobody laughed, nobody cried. A world without end, forever and ever. Amen, amen, amen. On the eighth day, machine just got upset. A problem man had not foreseen as yet. No time for flight, blinding light, and nothing but a void forever night.
Bonsoir, bienvenue à Rudy's Back in Town. C'est Paul et Anna qui sont là. Et nous venons d'entendre Hazel O'Connor avec le morceau Eight Day.
Ouais. Ça, c'était une chanson très importante pour moi quand j'étais jeune. Ça m'a introduit beaucoup des idées. C'est un film incroyable. Oui, et aussi c'était un film qui introduit les idées comme contre le racisme et aussi contre l'industrie de la musique. Parce que ça, c'était l'histoire, c'était contre la récupération, oui, de le punk par le grand argent de l'industrie musique. In musical, oui.
Yeah.
It's kicking off against the music industry and very critical. I was thinking about Simon Cowell being that sort of main character going, yeah, big brother. You